Culture Mag sur Radio Lac et les chaînes Carac.
En partenariat avec la ville de Genève.
Nous sommes de retour pour la dernière partie de notre discussion sur l'opéra et le musée de demain. Alors, le futur du musée d'art et d'histoire passe également par un chantier de rénovation. Vous êtes actuellement en plein concours d'architecture. Quelles sont les caractéristiques de construction indispensables au musée que vous imaginez pour demain ?
Alors, une chose qui est importante, évidemment, c'est la rénovation du musée. Il n'a pas été rénové depuis plusieurs décennies, même vraiment quasiment depuis son inauguration en 1910. Donc, une rénovation s'impose. On a aussi la chance d'avoir hérité du bâtiment de la Hède. On a nos bureaux, on a la librairie, la bibliothèque, etc., ce qui crée un îlot, finalement, entre le boulevard Helvétique et Jacques Dalcroze, ce qui veut dire qu'on a l'occasion de quasiment doubler nos espaces d'exposition sans forcément construire du neuf. Enfin, on va tout rénover et au final, on aura un musée beaucoup plus grand, beaucoup plus adapté, etc.
En œuf, à Vialcan, vous nous parliez justement de l'aspect historique des bâtiments qu'il fallait dérider. Il y a aussi également un chantier qui est prévu en 2026 au Grand Théâtre. Est-ce que, à partir du moment où on réinvente les contenus et la programmation, le physique ou l'aspect du bâti suit de toute façon ?
Oui, évidemment. Moi, je suis toujours quelqu'un qui avait dit il nous faudrait des nouvelles maisons d'opéra, pas rénover nécessairement que les anciennes, même s'ils sont très belles. Et la rénovation qu'ils ont fait 2015-2018 au Grand Théâtre de Genève a réinstauré la beauté, la splendeur des foyers du Grand Théâtre, est évidemment fantastique. Mais reste le challenge d'animer ces bâtiments historiques pour notre temps, pour nos publics. Et une des choses, et ça c'est les travaux qu'on va faire 26, c'est en effet une machinerie de scène très performante. On parle évidemment de la sécurité aussi pour les gens sur scène d'un côté, mais aussi de pouvoir faire des spectacles qui répondent aux exigences d'aujourd'hui. Et là, on a besoin d'une machinerie qui est à l'auteur. Et donc, les travaux qui vont encore venir, c'est vraiment de renouveler avec une technique d'aujourd'hui la tour de scène et aussi l'hydraulique de cette scène magnifique qui a le Grand Théâtre de Genève. Et ça va nous permettre encore aussi de pouvoir donner des spectacles comme le public d'aujourd'hui imaginerait de voir dans un grand théâtre.
Vous avez vite évoqué tout à l'heure les partenariats, parce que voilà, confronter les univers, construire des ponts, ça rentre dans votre vision. Vous avez cité VIA, mais sans vraiment parler de ça. Qu'est-ce que la collaboration entre vos deux institutions apportait au projet ? Est-ce que vous pourriez expliquer ce qui se passait ?
Bon, nous travaillons par exemple très souvent avec des artistes venant d'autres genres d'art. À l'opéra, c'est un peu la forme d'art totale aussi. Donc vous avez toujours un peu des variées formes d'art que vous pouvez inclure pour créer un opéra. On travaille avec des chorégraphes, des gens venant du cinéma et aussi des gens venant de l'art contemporain. Et donc là, on avait à l'époque un projet au Grand Théâtre avec Ugo Rondinone, artiste suisse, qui avait fait un décor et costume pour un ballet et en même temps avait son exposition au Musée d'Art et d'Histoire. Donc c'était idéal pour faire quelque chose ensemble et Marco Duvier, il a ouvert ses portes de cette expo qu'on avait fait des spectacles, disons, en balade avec nos danseurs du Grand Théâtre autour de la... dans l'exposition, en effet, de Rondinone. Je pense que c'est pour nous, dont le Grand Théâtre, l'opéra, c'est l'institution culturelle la plus large, peut-être aussi la plus chère, de la Suisse romande et du Genève. Et je pense que c'est important, c'est notre devoir de collaborer avec des autres, donner des possibilités, créer des ponts et être un catalyseur, si vous voulez, pour beaucoup de choses, ou servir pour des jeunes artistes ou pour d'autres artistes de créer quelque chose d'unique. Et je pense que ça, c'est très important et on le fait avec grande conviction et aussi, je pense, avec du succès.
Et donc, il s'agissait de l'exposition When the Sun Goes Down and the Moon Comes Up. Selon vous, quelle était la plus-value que les danseurs et danseuses apportaient à l'exposition et aux œuvres?
On revient sur cette idée de multifréquence, c'est-à-dire qu'on peut visiter une exposition en se concentrant sur les chefs-d'œuvre, on peut se concentrer une exposition sur le côté plutôt kinesthésique, presque physique, qu'on peut avoir dans l'espace. Et puis, les danseurs et cette chorégraphie et ce moment absolument magique mettaient en évidence tous ces instants, que ça soit kinesthésique ou esthétique, ou même du son, etc. C'était, comme Aviel le souligne, une œuvre d'art totale. C'est-à-dire que tout d'un coup, on réalise que l'exposition, ça peut être beaucoup plus que ce qu'on imagine de simplement regarder, apprécier des tableaux pour leur simple valeur esthétique. Et c'est ce qu'on aimerait vraiment faire au musée. C'est pour ça qu'on a des artistes en résidence, on a des musiciens, des chorégraphes, des danseurs, des cinéastes, des écrivains en résidence qui viennent ensuite nous apporter de l'inspiration par rapport à des événements que l'on a à l'intérieur du musée, toujours en regard, en collaboration, en parallèle avec les expositions.
Vous insistez sur l'aspect présentiel, hein, de ressentir physiquement les expositions. Le tout numérique dans le futur, vous n'y croyez pas ?
Alors, moi je crois en rien, mais ou en tout, ça dépend. En tout cas, ce qu'on a vu par exemple pendant la pandémie, où tout le monde s'est dit, bon, c'est le moment, là, on va aller visiter tous les musées du monde sur Internet. Ça marche une heure, voire deux, ensuite on n'en peut plus, on est retourné en masse voir les musées. Parce que finalement, c'est pas simplement d'être en face d'une image, c'est être en face de quelque chose physique, la peinture à l'huile, l'acrylique ou le dessin, etc. Tout ce qui est visible, finalement, c'est une variation d'ondes, hein, et ces ondes sont différentes que celles qu'on a sur un écran, par exemple. Donc, une fois de plus, voilà, j'insiste sur le côté kinesthésique, le côté physique, le côté de se mouvoir dans l'espace, qui est une caractéristique vraiment importante de l'exposition. Et tout ça, évidemment, dans le numérique, pour l'instant, on n'y est pas encore.
C'est une expérience sociale. Le musée, aussi l'opéra, c'est une expérience sociale. Ça l'est du départ. Et si vous êtes dans le numérique, à la maison, tout ça est perdu.
Et donc, pour parler des expériences sociales, en ce moment, on peut voir du 12 au 22 décembre Fedora au Grand Théâtre. En deux phrases, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, est-ce que vous voulez teaser un peu cette pièce ?
C'est une opéra rarement donnée, très beau, musique italienne, mélomane, et c'est un thriller en même temps, un thriller dans une société d'émigrés ou de réfugiés russes, qui se termine au dernier acte à Gstaad. Donc, on a un espèce de palace de Gstaad sur la scène du Grand Théâtre, et je pense qu'on vit dans un monde où il y a pas mal des exilés russes pour des raisons politiques, aussi comme dans cet opéra, et vous trouverez ça, tout ça, dans une très belle pièce festif.
Ça donne envie, merci. Et OMH, l'exposition Patrimoine en péril, pareil, deux phrases à son sujet.
C'est une exposition qui est évidemment malheureusement d'une grande actualité, vu que le MH est le dépositaire des derniers vestiges de Gaza.
Mais merci beaucoup, messieurs, pour le partage de vos visions futuristes.
Merci,
merci plaisir. À vous.
Dans quelques instants, nous découvrirons l'agenda du mois de décembre. Pour prendre congé de vous, messieurs, notre programmateur musical qui apparemment rêve de vacances et de chaleur a choisi un rayon de soleil estival. On écoute In the Summertime de Mongo Jerry.